Banninter de Tomblaine parleront dans ce micro du 25 mai au 1er juin pendant tout le festival des actes citoyens, 28e édition.
Interviews, lectures, textes, poésie, musique vous feront vivre le festival de Tomblaine.
Venez nous retrouver à Jean Jaurès, place des Arts à Tomblaine.
Ou sur le site des Francas, franca-on-r.fr. Radio aux actes citoyens, 98.8.
Bonjour. Je vais vous poser une petite série de questions. Avant de commencer, pouvez-vous nous dire comment vous vous appelez ?
Josette.
Annie.
D'accord. Moi, c'est Almir.
Et Enzo.
Quel est votre rôle dans ce festival ?
Bénévole au bar du festival pour toutes sortes de boissons et de petites grignoteries diverses, barres chocolatées, petits bonbons, etc.
Eh bien, moi, je collabore aussi au bar avec Josette. Voilà.
C'est quoi être bénévole ?
C'est prendre du temps sur soi. Sans être payé, pour un travail qui est souvent un plaisir.
Être bénévole, ben oui, c'est justement, c'est donner du temps qu'on a pour participer à une action culturelle ou autre. Oui, une action qui fait plaisir. Voilà.
Peut-on être bénévole à n'importe quel âge ?
Ah, ça, je ne sais pas. Peut-être qu'il faut être majeur. Mais je suis tellement vieille, moi, que je ne me suis pas posé la question.
Et moi, je suis encore plus vieille et je commence à sentir que je suis très fatiguée.
C'est quoi l'association aux actes citoyens ?
Ben, c'est une association qui est culturelle, qui organise un festival déjà. Puis des concerts et des pièces hors festival. Ça marche toute l'année.
Aux actes citoyens, bien, c'est une belle idée, je pense. Je pense, des responsables culturels de Tomblaine. Et voilà, c'est une démarche collective qui entraîne tout le monde, c'est ouvert à tout le monde. En fait, c'est quelque chose de beau et de fort.
Pourquoi vous êtes bénévole ?
Pourquoi y êtes-vous bénévole ?
Eh ben, j'ai été sollicitée il y a une quinzaine d'années pour jouer... pour faire la sorcière dans un petit bar à l'intérieur du festival. Et depuis, ça fait une quinzaine d'années, depuis j'ai renouvelé. C'est sympathique, c'est très convivial, il y a une belle ambiance, et c'est ouvert à tout le monde, comme disait Annie.
Alors moi, je suis bénévole parce qu'un jour, j'ai rencontré Josette. Et qui m'a parlé du festival et qui m'a demandé si je voulais pas venir avec elle tenir le bar. J'ai dit oui et puis voilà, je suis là. C'est la 8e saison, je crois. Josette, je ne sais pas, mais moi, 8e saison, c'est déjà pas mal.
Depuis quand vous êtes bénévole dans cette association ?
Eh bien, comme je le disais tout à l'heure, une petite quinzaine d'années, mais j'ai pas compté, hein. C'est environ.
Comme je le disais, moi, c'est la 8e année, depuis 2012.
Allez-vous avoir des spectacles pendant ce festival ? Lesquels ?
Pour cette année ? Cette année, j'ai vu deux spectacles. Les Swing Girls, qui était un spectacle très sympa. Et j'ai un trou de mémoire.
Dimanche, c'était quoi ?
Ah, Nijinsky, qui était un spectacle de danse très élaboré. Et voilà, sinon, c'est ouvert ici après les spectacles. C'est pas évident de voir le premier spectacle, mais on peut en voir quelques-uns quand même.
Alors moi, pour l'instant, j'en ai vu deux, les Swing Girls et puis Uster Molière, voilà, et j'en verrai un jeudi, puis peut-être un ce soir, mais c'est pas encore sûr, ça dépend s'il y a des places ou non.
Allez-vous voir le spectacle êtes-vous déjà monté sur scène?
Sur scène ici, aux actes? Non, non. je me sens pas assez qualifiée pour monter sur scène. Ah si, une fois, j'ai fait une masterclass de flamenco et donc on a fait une prestation publique à l'extérieur sur un espace qui était libre.
Moi non, jamais, j'oserais jamais de toute façon.
Est-ce que vous serez bénévole l'année prochaine au festival?
Oh ben, si ma santé le permet, oui, je pense renouveler si c'est possible.
Ben moi, c'est la même chose. Si ma santé le permet, je serai encore là.
Quel métier faites-vous quand vous êtes bénévole?
Ben, quand je suis pas bénévole, c'est pas de la paresse, mais je suis en retraite, donc mon métier est terminé. Sinon, j'étais secrétaire à l'éducation nationale, à l'université.
Alors moi, de même, je suis retraitée et avant, j'étais bibliothécaire, voilà.
Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions.
Eh ben, merci à vous.
Hein. Merci à vous, les garçons.
Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose?
Non.
Merci à vous en tout cas.
Merci. Merci, au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Alors maintenant, c'est Youssef qui va interviewer une personne qui fait partie de l'association Troubalou Spadassin.
Alors, bonjour, je vais vous poser des questions.
Bonjour.
Pouvez-vous vous présenter?
Alors moi, je m'appelle Thierry, je suis le secrétaire de l'association Troubadour et Spadassin.
Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est l'escrime et ça sert à quoi?
Alors l'escrime, on parle d'escrime dès qu'il s'agit de tenir une arme. Que ce soit une épée, que ce soit une hache, que ce soit un peu n'importe quoi. On va parler d'escrime à partir du moment où on tient une arme. Et ça sert à quoi? Ben, ça sert à survivre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous tenez une arme et que quelqu'un d'autre en face de vous en tient une aussi, comment est-ce que vous allez faire pour parer ces attaques, pour les esquiver, pour y répondre? Voilà. Et c'est une pratique très, 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 très ancienne. Ça remonte à l'Antiquité.
Est-ce que vous avez déjà fait de la vraie escrime avec des vraies épées?
Alors, l'escrime ancienne et de théâtre est une vraie escrime avec de vraies épées. Si ce n'est que elles sont sécurisées dans le sens que les pointes ne sont pas pointues. Et puis, les bords ne sont pas trop tranchants. Puis enfin, il y a toutes sortes de règles de sécurité qui sont destinées à éviter qu'on ne se blesse avec. Enfin, une autre sécurité, c'est que les échanges entre les combattants sont chorégraphiés, en fait. Donc, il ne s'agit pas vraiment de blesser ou de tuer l'autre, mais de raconter une histoire au cours d'une reconstitution.
Ok. Où avez-vous débuté l'escrime?
Alors moi, j'ai débuté l'escrime il y a un petit moment déjà. C'était au Conservatoire d'escrime ancienne de Nancy. Donc ça remonte à peu près 10 ans. Et à l'époque, c'était une association qui était tenue par un vieux maître d'armes qui s'appelait Monsieur Dupré.
Depuis combien de temps faites-vous l'escrime?
Alors l'escrime, j'en ai fait pendant 5 ans et puis j'ai arrêté parce que le conservatoire d'escrime ancienne a fermé ses portes. Le maître Dupré a pris sa retraite. Ensuite, il a confié ses ouailles au cercle d'escrime de Vendeuvre et les horaires ne me correspondaient pas, donc j'ai dû arrêter pendant un petit moment avant que Fabrice Chouet, qui est le directeur technique de l'association Troubadour Espadassin, ne vienne me chercher en me disant « Écoute Thierry, je veux faire une association, est-ce que tu veux bien te mettre avec moi ?» etc. Donc ça, ça remonte à septembre de l'année dernière.
Ok. Que mettez-vous dans l'escrime ?
Alors, ce que j'aime dans l'escrime, alors ça m'est très personnel. Hein. Je ne sais pas si on va retrouver ça chez d'autres pratiquants. Le côté martial, moi je suis dans les arts martiaux depuis que j'ai 11 ans. Et le côté, quelque part, maîtrise de soi, parce que pour faire une belle prestation technique, il faut se maîtriser. Le côté théâtre aussi, le théâtre, quelque part, c'est un vrai travail sur ses émotions, c'est un vrai travail sur son corps. Il faut être capable d'exprimer par le corps des choses qui soient tout de suite perceptibles par le public qu'on a en face de soi. Et c'est aussi le côté reconstitution historique et puis un petit peu le côté un petit peu féerique qui est de se projeter dans un monde où l'on raconte de belles histoires, justement.
Est-ce que c'est un sport ?
Alors, l'escrime moderne est un sport. L'escrime ancienne et de théâtre, on peut en avoir une pratique sportive, mais ce n'est pas identifié de façon officielle comme étant un sport. C'est plutôt dans tout ce qui est activité culturelle et de spectacle.
Est-ce que l'escrime a du succès ?
Alors, l'escrime ancienne et de théâtre commence effectivement à être de plus en plus connue. On voit diverses reconstitutions qui sont faites à droite et à gauche, quel que soit le style. Hein. On peut être dans le style Renaissance, on peut être dans le style 15e, 16e, 17e, 18e siècle, tout comme on peut être dans le style plutôt antique ou médiéval. Ça reste de l'escrime et on peut retrouver des festivals diverses et variés un petit peu partout en France et en Europe d'ailleurs. On peut aller jusqu'en Pologne ou en Tchécoslovaquie, par exemple.
Est-ce que l'escrime, c'est un sport plus connu que les autres ou moins ?
L'escrime moderne, donc le sport qui est une discipline olympique, est lui très, très connu. L'escrime ancienne et théâtre, un peu moins, je pense, mais ça commence à venir et... suffisamment pour qu'on voit au sein de la Fédération d'escrime de France quelques petites distensions entre les sportifs qui vont aller aux Jeux Olympiques et qui vont faire l'escrime moderne et puis les acteurs qui vont avoir une escrime qui est plus historique, qui est plus, où on va retrouver des techniques qui ont réellement existé dans le temps avec une intention mais qui va être utilisée pour la constitution historique et pour le spectacle.
Et c'est quoi la différence entre l'escrime théâtrale et l'escrime sportive ?
La différence, c'est que dans l'escrime sportive, le but, c'est de gagner. Donc, il faut toucher le plus possible l'adversaire pour avoir suffisamment de points pour pouvoir être déclaré vainqueur. Et les armes, c'est difficile de blesser avec une arme d'escrime moderne parce qu'elle est très, très souple, elle plie. Enfin, il y a toute une technologie qui va avec pour pouvoir détecter quand une touche a été faite sur l'adversaire, donc notamment des systèmes électriques. Alors que dans l'escrime ancienne et de théâtre, vraiment on voulait toucher l'autre, on pourrait le blesser, mais le blesser grièvement, comme c'était le cas à l'époque où il y avait des duels, parce que les armes sont véritables. Donc le but n'est pas là, et même si on met une intention dans le geste pour que ça soit convaincant pour celui qui regarde, c'est une chorégraphie, et la personne en face va faire une parade, une esquive au bon moment, etc., et il n'y a pas de blessé.
L'épée, elle peut se casser, quoi, pendant qu'on...
Bien sûr. Bien sûr, si on s'y prend suffisamment mal, on peut casser une lame sans aucun problème.
Est-ce que les enfants peuvent faire de l'escrime théâtrale ?
Alors, l'escrime théâtrale, ça va quand même demander une coordination motrice et un certain nombre de capacités physiques qui fait que, ça va dépendre des clubs, mais il faut déjà être assez suffisamment âgé pour pouvoir vraiment commencer l'escrime ancienne et de théâtre avec de vraies épées, même si elles sont faites à la taille des enfants. Donc, quand ils sont plus petits, on commence avec des bâtons.
Okay. Depuis combien de temps connaissez-vous le festival de Tomblaine?
Eh bien, depuis 3 jours. Ceci dit, Fabrice Chouet, qui est donc notre responsable, lui connaissait la manifestation depuis plusieurs années.
Okay. Comment l'avez-vous connu?
Eh bien, un jour, Fabrice m'a dit, tiens, Thierry, est-ce que tu veux m'accompagner au festival de Tomblaine? Et j'ai dit oui.
D'accord. Je n'ai plus de questions. Voulez-vous rajouter quelque chose?
Non, tout va bien.
Merci d'être venu répondre à nos questions. Au revoir.
Au revoir.
Ben maintenant, c'est Mehdi qui va nous remettre une musique.
Le titre de la chanson est Tonton du Bled, un groupe de hip-hop qui s'appelle le 113, qui a été proposé par Ayoub. C'est une chanson qui parle d'un jeune homme qui part en Algérie et qui emmène tous ses amis et sa famille. Ayoub l'a choisie car elle fait rire, elle est joyeuse.
Les cabas, ils sont trop lourds.
Allez, monte dans la voiture.
Regarde, Bilal,
monte,
il s'en va.
Monte, Bilal, monte. Hé, hey, Atme. Allez, monte. Allez, on y va. Hé. Hey. Hé, Karim. Tonton du bled.
Tonton du bled.
Pour tous les Miss Mourth. Bled ou bledi.
Bled ou bledi.
504 breaks chargés, allez, montez les neveux. Juste un instant que je mette sur le toit la grosse malle bleue. Nombreux comme une équipe de foot, voiture à ras du sol. On est les derniers locataires qui décollent. Le plein gasoil et gazous pour pas flancher. Bélène, va pisser, le temps que je fasse mon petit marché. Direction le port, toujours le pied sur le plancher. Jusqu'à Marseille avec la voiture un peu penchée. Plus 24 heures de bateau, je sais c'est pas un cadeau. Mais qu'est-ce que je vais kiffer sur la place Gido? À Béjaïa City, du haut de ma montagne. Avant de rentrer feu tard, je fais un petit détour par Warlan. Vu qu'à Paris, j'ai dévalisé tout Tati. Je vais rassasier tout le village, même les plus petits. Du tissu et des bijoux pour les jeunes mariés. Et des jouets en pagaille pour les nouveaux nés. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Sur la plage à boulet mat avec mon zinc et son derbouka dans la main. Un verre de Selecto, imitation coca. Une couche de zizitoun sur le corps et sur les bras. Avec mon poste sur un fond de Zerwania. On parle de tout et de rien, des Nikers au visa, de la traversée du désert au boucouscous de Yima. Et mon cousin me dit,
Karim, kiff les là.
Il était tellement bon que j'ai jeté mon cirage en rat. Avec 2-3 blédards, on tape la discussion. Mahmoud peut pas s'empêcher de dire que je suis dans la chanson. L'un d'eux me dit,
moi je t'ai pas vu cette télévision.
Et l'autre me demande,
Sahat Alaf Michael Jackson.
Il parle trop vite. Et en argot de blédard, je sais ce qu'il ferait pour une poignée de dinars, connard. Le soleil se couche et tout le monde rentre chez soi. C'est l'heure du repas et du latte. Pour d'autres, la chicha. J'ai passé un bon mois dans ce qu'on appelle le tiers monde. Et si j'avais assez d'oseille, j'emmènerais tout le monde. Mais je peux pas fermer les yeux sur ce qui se passe vraiment. Les 10 morceaux ont disparu aux enfants et aux mamans. Et je suis rentré à la cité,
Ardeya.
Content de revoir mes potos
et ma chèbe.
Pendant 2 semaines, j'ai mangé
que de la charba.
J'irai finir mes jours là-bas. Inch'Allah, je vais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas.
S'il te plaît, vas-y, laisse-moi ramener mon scooter.
Bon, dans ce cas-là, je ramène mon 3/4 alors. Bon, alors je prends tous mes CD, toutes mes cassettes. Je me fais la boule au moins avant de partir. Je ramène la PlayStation. Oh, la télé du salon au moins. Je crois que je vais aller là-bas pour me marier ou quoi?
monsieur.
Pourquoi dans les rivières on trouve des chaussures, à l'orée des forêts, des montagnes d'ordures, des usines qui crachent des tonnes d'hydrocarbures? Comment font les oiseaux, coquillages et poissons, quand ils ont sur la peau des kilos de goudron, si la mer n'est plus bleue mais marron? Arbres d'Amazonie, un nuage qui pousse s'est installé sur Paris. Parfois quand je respire, je tousse. Les neiges sont fondues au Kilimandjaro. On dirait que rien ne va plus car certains animaux déjà n'existent plus en photo.
Bah maintenant, c'est Mehdi qui va interviewer Monsieur Ferron.
Je vais interviewer M. Ferron, qui est le maire de Tomblaine, mais aussi un des principaux organisateurs de ce festival. Bonjour.
Bonjour.
Comment et quand ce festival est-il né?
Ben, ça ne nous rajeunit pas, mais il est né il y a 28 ans. 28 ans, ça fait longtemps. Hein. Et on ne pensait pas que ça allait durer si longtemps et que ça allait avoir cette histoire-là.
Pourquoi avoir choisi d'appeler l'association aux actes citoyens?
Parce que, en fait, on était trois copains, on avait organisé une soirée chanson avec un chanteur de grande qualité au foyer des jeunes à l'époque, et on avait fait 5 entrées payantes. Donc ça s'était pas bien passé, on était très déçus, et on s'est dit on va essayer de bouger les gens, on va faire quelque chose. Et donc on a créé un festival, et on l'a tout de suite appelé aux actes citoyens, parce qu'on s'est dit il va falloir que les gens ils participent, que ce soit eux qui soient acteurs et qu'ils participent.
Qui est les premiers invités célèbres de ce festival?
Tout au début, la première fois, c'était un festival de café-théâtre. C'est-à-dire on avait fait 4 soirées. On avait eu 100 personnes par soirée. On était contents. Et je pense que moi je travaillais avec des humoristes. J'écrivais pour des gens qui faisaient des sketchs. Voilà. On avait dû avoir Roland Magdan. On avait eu Patrick Fonte, du duo Fonte-Eval, et puis il y avait aussi Olivier Lejeune.
D'accord. Quels sont les moments les plus émouvants ou forts que vous avez vécu dans ce festival?
Alors, il y en a tellement, je peux pas les dire. C'est difficile de répondre à ça. Je vais vous dire, mais quasiment au hasard, un ou deux exemples. Annie Girardot, qui était une très très grande dame du théâtre et du cinéma, est venue jouer ici. C'était un de ses derniers spectacles parce qu'elle était malade. Et donc elle avait plus complètement tous ses esprits, mais c'était une très grande dame. Et on a mangé ensemble. Et à la fin, il était tard et elle devait repartir. Elle était entourée par deux messieurs qui s'occupaient d'elle et qui allaient la ramener à l'hôtel. Et à table, il y avait, en dessert, il y avait de la crème au chocolat. Et elle s'était mis de la crème au chocolat plein les doigts. Et moi, j'avais une belle chemise blanche. Et donc, elle se lève pour repartir à l'hôtel et je me lève pour lui dire au revoir. Et elle me dit, parce qu'elle était très chaleureuse comme ça, elle dit « Oh, je t'embrasse !» Et puis elle vient, elle me prend comme ça, elle me met ses mains et elle me met plein de crème au chocolat, plein partout sur ma chemise. Et j'ai trouvé ça très fort parce que tous les amis de l'association, du festival, personne n'a ri pour ne pas la gêner. Parce qu'elle elle était déjà malade, elle ne s'est pas rendue compte qu'elle m'avait complètement taché la chemise. Personne n'a ri, personne n'a rien dit, on a fait comme si c'était rien passé. Donc elle m'a embrassé, puis elle est partie. Et alors après, tout le monde se moquait de moi en disant « il ne faut plus laver ta chemise, hein, parce que c'est collector, hein, c'est vraiment une chemise qui doit rester comme ça. » C'est un grand souvenir du festival.
Et à l'inverse, y a-t-il eu des moments difficiles?
Oui, mais pas trop. Il y en a eu au début... Parce que organiser le festival comme ça, c'est très fatigant. On est très, on est sur les nerfs, hein, voilà. Et au début, on n'était pas bien organisé au niveau de la technique, parce que on monte des grands spectacles Et autant il y a beaucoup de bénévoles qui travaillent, autant pour le son, pour la lumière, tout ça, on ne peut pas travailler avec des bénévoles, il faut que ce soit des vrais professionnels. Et pendant des années, on n'avait pas des personnes, soit elles n'étaient pas suffisamment compétentes, soit elles avaient des problèmes de caractère, elles s'énervaient facilement. On a eu des psychodrames là, à plusieurs reprises au début. Puis un jour, on a rencontré en particulier Jean-Mi, qui est le patron du son dans ce festival, et puis Toff, qui est le patron de la lumière, et puis d'autres collègues à eux. Voilà, ils partagent l'aventure humaine avec nous. Ils sont très agréables, ils bossent beaucoup, et même quand ils sont fatigués, quand il y a un problème à un moment donné de dernière minute, où il y a un peu de l'arsène ou je sais pas quoi, personne ne s'énerve, on essaie de trouver des solutions, et ça, c'est très reposant. Il y a longtemps, peut-être de temps en temps, entre les bénévoles, on pouvait avoir des tensions. Souvent, ça venait de moi parce que je voulais monter un truc qui soit très performant. Et donc, je suis très exigeant. Et en plus, ce sont des gens qui sont bénévoles. Et en plus, je suis très exigeant. Mais aujourd'hui, franchement, quand tu vois le travail que c'est, le nombre de gens qui viennent bosser, et puis dans la semaine, il y a pas une engueulade, quoi. Ça se passe vraiment très bien. Et ça, c'est une performance aussi. Et on a tellement de beaux souvenirs ensemble. Donc ça, il y a eu des mauvais moments de ce genre-là. C'est passé. Après, il y a eu quelques mauvais moments avec des artistes qui sont pas sympas. L'année dernière, on a eu Elise Moon, qui est une star. Alors Elise Moon, quand on le voit à la télévision, il fait rire tout le monde. Et puis du coup, il nous paraît très sympathique. Mais quand il arrive dans une petite ville comme Tomblaine, et puis qu'il se comporte mal, c'est-à-dire qu'il n'est pas sympa du tout, il n'est même pas poli. On n'a plus envie de le voir. Voilà, c'est une soirée qui est passée. En plus, son spectacle n'était pas extraordinaire. Et je mettrai ça en opposition avec ce qui s'est passé hier soir. Hier soir, on a eu le curriculum vitae de Dieu avec Jean-François Balmer et Didier Benureau, qui, contrairement à Elise Moon, sont des très grands du théâtre. Et ces gens-là, ils arrivent immédiatement, ils ne disent que du bien de ce qu'on fait. D'abord, ils ne parlent pas d'eux, ils parlent de nous. Ils nous posent des questions sur nous, ils s'intéressent à ce que nous faisons. Et le soir, Jean-François Balmer, il est âgé, hein, et il était fatigué. Il était en train de manger après le repas, très tard. Et on est venu le voir pour venir donner une interview à d'autres élèves ici à la radio. Il est venu très gentiment. Et l'élève, la première question qu'il a posée à Jean-François Balmer, c'est « Comment ça se fait que vous venez dans un tout petit festival comme ça ?» Moi, j'étais derrière la vitre. Là, je trouvais ça un petit peu dur pour nous. Et Jean-François Balmer a répondu « Mais il n'y a pas de petit festival et je suis très honoré de venir à Tomblaine. » Tu vois, il y a des gens comme ça qui ont beaucoup de talent, mais qui en même temps ont une espèce de simplicité, une gentillesse. Et ça, c'est vraiment du bonheur. Moi, j'ai pas envie, je suis pas un acheteur de spectacles. J'ai pas envie d'avoir des spectacles, et puis boum, après on part, et puis c'est comme autant regarder à la télévision. À la fin, on éteint son poste de télévision. J'ai envie qu'on puisse se parler avant et après le spectacle. Et c'est des belles rencontres, c'est des très très beaux souvenirs. On a 10 millions de bons souvenirs et quelques mauvais souvenirs sur 28 ans.
Comment choisissez-vous les spectacles de ce festival ?
Alors, moi j'ai travaillé à Europe 1. Longtemps, donc je voyais des gens dans le showbiz tous les jours. Et donc j'ai un gros réseau d'adresses, de connaissances. Et puis j'ai aussi appris en matière de théâtre. Et puis comme on a tous progressé ensemble, on a une stratégie pour notre public. On a une partie du public qui ne va jamais au théâtre, qui ne va au théâtre que ici à Aux Actes Citoyens. Donc il faut préparer les gens, les faire progresser. Et donc dans une semaine comme celle-là, on a eu des spectacles, des vraies performances de danse ou de mime, par exemple. On a eu du théâtre mise en scène. On a eu un seul en scène avec Joey Starr. Hier, c'était plutôt drôle. On était plutôt sur l'humour. avec un très beau texte de Jean-Louis Fournier. Et puis d'autres fois, on est sur des choses plus graves. Joe Star, c'était les grands textes humanistes de l'Assemblée nationale, donc c'est plus grave. Donc on essaie d'organiser une diversité. Et aussi, ce qui m'intéresse, c'est d'étonner les gens. C'est parce qu'il y a de très bonnes choses à la télé parfois. Et nous, on joue pas dans la même cour, on n'a pas les mêmes moyens. Donc, ce qu'il faut, c'est que les gens soient étonnés, qu'ils se disent « Waouh, j'ai vu quelque chose ce soir, ça ressemble à rien d'autre. » Et plus ça fonctionne. Après, c'est pas obligé que les gens aiment tout. Il y a des gens qui préféreront certains spectacles à d'autres. Et alors, je suis toujours content quand ils me disent qu'ils aiment bien, mais c'est pas obligé. Et l'important, c'est qu'ils aient ressenti quelque chose, qu'il y ait une émotion, qu'il y ait du plaisir, voire même que ça les dérange. Hein, ça peut faire partie des choses aussi. Et donc, comment je fais ? J'ai un réseau de professionnels. Je connais plein de professionnels dans ce métier. Il y a des gens avec qui je sais que je partage pas les mêmes goûts. Donc si cette personne-là m'appelle et me dit « Tiens, j'ai vu un bon spectacle, etc. », je réponds oui poliment, mais je perds pas de temps à aller voir. Par contre, il y a un certain nombre de personnes dans la profession avec qui je partage la sensibilité. S'ils attirent mon attention, je me déplace, je vais voir dans l'année. Donc j'étais député à Paris, c'était assez facile d'aller voir des spectacles à Paris. Et puis, je vais voir aussi au Festival d'Avignon. Alors, il n'y a pas que moi, il y a Agnès aussi, et puis d'autres, ponctuellement Josette, Sylvie Kurt aussi. Et en règle générale, c'est une association. Donc, c'est l'association qui décide. Et je reviens vers l'association et je dis voilà ce que je propose. Et l'association dit oui ou non. En général, elle dit oui parce que si tu veux, on a fait nos preuves. Quoi. On voit bien, le public, quand il sort, il est content. Ça, plusieurs années de suite, on a trouvé des spectacles qui ont été moliérisés. Donc on a fait nos preuves. C'est très, très rarement arrivé que les gens de l'association disent non, c'est une mauvaise idée. En général, ils disent oui. Mais j'attends toujours que l'association ait validé pour continuer.
Et les œuvres qui sont exposées ?
Alors les œuvres, alors dans l'association aux actes citoyens, comme il y a beaucoup, beaucoup de travail, on se partage les tâches. Il y a plusieurs personnes, il y a Agnès, Safia et puis d'autres qui sont chargés d'organiser toute cette partie exposition. Alors là encore, je ne peux pas m'empêcher de mêler de tout. Donc là, à plusieurs reprises dans l'année, je dis tiens, j'ai vu un truc là. Et puis je leur mets des missions impossibles parfois. Tu vois, j'ai vu un truc sur Internet, le mec il est au bout du monde. Bah, l'année dernière, par exemple, Hassen Iwi, c'est un artiste marocain qui travaille avec des pneus. Il fait de superbes sculptures avec des pneus. Et j'avais vu ça, j'avais repéré, j'ai trouvé ses coordonnées et j'ai dit à Safia et Agnès, il faut absolument qu'ils viennent au festival aux actes citoyens. Donc elles se sont débrouillées, puis voilà, il a exposé ici. Et voilà, mais c'est beaucoup elles deux qui travaillent sur ce sujet-là.
Est-ce que c'est dur de s'occuper du festival et d'être mère en même temps ?
Ah oui, parce que là c'est un peu compliqué, tu vois. La semaine dernière, à 15h, il y avait l'ouverture du festival, donc beaucoup de travail, beaucoup de tensions, etc. Il fallait recevoir les artistes. Et à 14h, il y avait des gens qui se mariaient. Et ils ont insisté en disant « on aimerait bien que ce soit le maire qui nous marie ». Alors j'ai mis mon costume cravate, je suis allé les marier. Et puis je me suis changé vite fait, puis je suis venu au festival. Je ferai pas ça toutes les semaines, c'est compliqué. Après, dans la semaine qui a suivi... Moi, je passais souvent mes matins à la mairie parce qu'il se passe toujours quelque chose à la mairie. Il y a toujours des choses à faire. Et puis, voilà, c'est une semaine qui est dure. Après, dans les derniers mois avant le festival, il y a beaucoup de préparation. Et je suis aussi un peu surchargé. Mais ça apporte tellement de satisfaction. Parce que si tu veux, moi, je pense que même si c'est une association complètement indépendante de la mairie, moi, je ne suis même pas membre du conseil d'administration de l'association. Je pense que ce projet, c'est un projet lié à la politique globale de la mairie. Je pense que je joue mon rôle de maire en étant là. Alors, on peut me dire, bah oui, mais les autres maires, ils font pas ça. Bah, moi, je pense que oui, parce que une de mes responsabilités, c'est de faire en sorte que les gens, ils fassent société, c'est-à-dire qu'ils s'entendent, qu'ils se parlent, qu'ils se connaissent, ils apprennent à se connaître. Dans un festival comme ça, t'as plein de gens qui se parlent pour la première fois. Il y a des grands-mères qui arrivent en moto ou en vieille voiture. Il y a des enfants qui font des masterclass de comédia dell'arte. Et puis, ces gens-là, ils se rendent compte, ils se parlent pour la première fois. Imaginons qu'un jour, il y a une dame âgée, en plein hiver, un jour, ses volets, ils ne s'ouvrent plus. On ne sait pas ce qu'elle a, elle est à l'intérieur, il ne s'ouvre plus. Si personne ne la connaît, si personne ne lui a jamais parlé, ça peut durer plusieurs jours avant qu'on se rende compte qu'elle a eu un malaise à l'intérieur. Et puis, on peut imaginer que si elle est venue au festival, elle a rencontré des gens, on s'est parlé. Il y a des gens qui ont dit « Ah ben, vous êtes ma voisine, vous habitez pas loin. » Ils se sont parlé. Ben, on sera plus à l'écoute, on fera plus attention. Tu vois, c'est ça qui est intéressant.
Est-ce que vous ferez le festival l'année prochaine ?
Chaque année, je me dis qu'il faudrait qu'un jour, je pense à passer le relais. Oui, je ferai l'année prochaine. J'ai d'ailleurs des projets, des beaux projets pour l'année prochaine. Puis l'année d'après, ce sera les 30 ans. Donc voilà. Simplement, moi, je pense que je ne pourrais pas le faire tout le temps. Aussi parce que j'ai des projets personnels pour faire des tas d'autres choses. Et que personne n'est irremplaçable. Mais là, ça tourne beaucoup autour de moi. Et donc, il faut que maintenant, on commence, même si c'est que pour dans 10 ans, je ne sais pas moi, hein, mais qu'on commence à s'organiser dans cette association pour imaginer la suite après. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là depuis 10 ans, 15 ans dans le festival. Et le festival, il ne repose pas que sur moi, sur mes épaules. Il repose sur, je sais pas, 30 personnes. Il y a peut-être 70-80 bénévoles, mais il y en a 30-35 qui sont des piliers du festival. Et t'en enlèves un, ça fonctionne plus de la même façon. Parce que chacun a pris des responsabilités. Je t'ai dit qu'il y a des gens qui ont pris la responsabilité pour les expositions, mais je pourrais te dire la même chose pour la cuisine, pour le bar, pour la billetterie. Et puis tu enlèves une personne et ça tourne plus. Donc... il faut qu'on réfléchisse à qu'est-ce qu'on veut après, parce que dans ces 30-35 personnes, ils sont pas loin d'avoir mon âge pour une bonne partie. À un moment donné, ils vont vouloir arrêter parce qu'ils voudront passer à autre chose ou ils seront fatigués. Et puis c'est bien qu'il y ait des gens nouveaux parce qu'il peut y avoir de nouvelles idées. Et ce qui serait dommage, c'est que une année, deux ou trois, dont moi par exemple, on arrête. Et que l'année suivante, boum, il se passe plus rien, il n'y a plus de festival, ou même qu'il y ait le festival, mais à moitié, quoi. Tu vois, donc il faut qu'on le prépare. Peut-être qu'il y aura moins de choses le jour où on ne sera plus là, il y aura moins de choses, mais peut-être que ce festival va se développer encore plus parce qu'il y aura des nouvelles personnes qui auront des idées. Puis parfois, on pense avoir des super idées, on pense être très très bon, et puis les années passent, et puis on ne se rend pas compte qu'on devient un peu ringard. Et donc, c'est bien qu'il y ait des nouvelles personnes plus jeunes qui viennent et puis qui fassent d'autres choses. Il faut qu'on pense à la suite. Le festival, il va évoluer. Comment ? Je ne sais pas. Mais ça appartiendra à ceux qui s'empareront de ça. Il faut que je trouve le moyen de parler moins, de prendre moins de place pour laisser de la place aux autres.
Merci à vous. Voulez-vous rajouter quelque chose ?
Bah, t'as vu, je viens de te dire qu'il faut que j'arrête de parler. Et là, t'as vu comment j'étais bavard ? Non, non, je veux juste vous dire que je vous écoute tous les jours à la radio, vous, vos copains, etc. Et je vous trouve super. Tu vois, par exemple, s'il n'y avait pas l'école et s'il n'y avait pas le festival, cette expérience que vous vivez là, d'animer une vraie émission de radio... Et ben vous n'auriez pas pu la voir. Et ça, c'est une vraie chance quand même, parce que ça vous montre que c'est pas facile d'animer une émission de radio. Moi, j'ai travaillé à Europe 1. La première fois que j'ai été au micro à la radio, je me suis dit, oh là là, j'ai pas assez préparé. Et demain, il faut que je travaille, quoi. Et parce que sinon, je vais pas rester longtemps. Je vais pas garder mon travail longtemps, quoi. C'est quand je travaillais sur une émission. Au départ, c'était une émission quotidienne. L'émission était terminée à midi et demi. J'allais manger et je revenais au boulot et je commençais à préparer l'émission du lendemain. Et je travaillais à la préparation jusqu'à 11h le lendemain, jusqu'à ce que l'émission commence. C'est beaucoup de travail de préparation. On a l'impression que c'est facile de parler à la radio, mais non, c'est pas facile, c'est du travail. Et c'est passionnant. Merci. Donc bravo à vous.
Merci.
Merci. Merci.
Ben maintenant, on va mettre un interview des CE1 de Madame Gaudel.
Bonjour.
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 Bonjour. Pouvez-vous vous présenter ?
Je m'appelle Sarah, j'ai 8 ans, je suis en CE1 chez Madame Gaudel.
Bonjour, je m'appelle Laura, j'ai 7 ans, je suis chez Madame Gaudel en CE1.
Bonjour, je m'appelle Ayoub, j'ai 8 ans, je suis en CE1 chez Madame Gaudel.
Qui commence ?
Moi.
Que vas-tu nous lire ?
Je vais vous lire une poésie que j'ai inventée. Ça s'appelle Les Lapins. Les Lapins. Un jour, j'ai rencontré un lapin qui dormait, mais grâce à l'été, il s'est réveillé et je l'ai adopté. Je m'en suis bien occupée et il a grandi.
Merci.
Merci. Laura, lis-nous ta poésie.
Alors, bonjour, je vais vous présenter Bonjour le printemps que moi j'ai inventé.
On t'écoute.
Bonjour le printemps. En volant sur le vent, dans le lac des petites vagues, le printemps qui s'installe. En regardant sur le rivage, les animaux qui se lèvent, en regardant le soleil. Bonjour le printemps qui plane au-dessus du vent. Tout d'un coup, le vent se lève. Maintenant, je sais ce que ça fait.
Merci. Merci beaucoup pour vos poésies. Ayoub, lis-nous ta poésie.
Je vais vous présenter les mères des hiboux que j'ai fait. Les mères des hiboux. Mère hibou, dit à ses joujoux d'être loulou pour devenir foufou pour joujou avec les coucous. C'est
bon. Merci. C'était vraiment bien. Et
au revoir.
Et au revoir. Et je vais vous dire quelque chose. Comment vous avez réussi à inventer ces poésies?
Moi, j'ai pensé à mon lapin quand je l'ai inventé.
Moi, j'ai pensé au printemps parce qu'on est au printemps et voilà.
Et moi, je me suis inspirée d'une poésie.
Ok, merci et au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Maintenant, nous passons à la seconde partie de l'émission, Le Coin des Enfants. Ce sont des articles que nous avons écrits pour des questions qui nous intéressent. Alors, Mehdi va nous parler du foot et l'honneur de notre parrain du festival, Franck Leboeuf.
Je vais vous parler de mon équipe préférée, le Barça. C'est une équipe espagnole avec des grands joueurs, comme Lionel Messi, Ivan Rakitic, qui est allé en finale de la Coupe du Monde, et beaucoup d'autres joueurs. Ils battent toutes les autres équipes et ils ont gagné la Champions League 5 ou 6 fois. Lionel Messi est un très grand joueur qui a gagné 5 ballons d'or. Le Barça est une équipe très forte. Ronaldinho, Samuel Eto'o sont aussi des grands joueurs, c'est des légendes du foot. Ils sont premiers du classement espagnol. Et ils ont battu le Real de Madrid, qui est aussi une grande équipe. Lionel Messi est la star du foot espagnol. Il a commencé dans un petit club argentin. Quand il était petit, il pensait qu'au foot, il a évolué à chaque match. Il ne grandit plus, mais il va rester fort. Pour gagner tous les matchs, il joue collectif, et comme ça, ils sont meilleurs. Ils sont trop forts, le Barça. Moi, je les aime. C'est pour ça que je voulais vous en parler à la radio.
Ben, maintenant c'est Okan qui va nous parler d'un youtubeur qui s'appelle Michou. Et Okan, qui est Michou?
Ben, Michou, c'est un joueur de Fortnite. Ben, c'est un youtubeur. Ben, il est sur YouTube, il fait des vidéos. Ben, voilà. Il fait des vidéos sur Fortnite. Et
c'est quoi Fortnite?
Ben, Fortnite, c'est un jeu vidéo où presque tous les enfants jouent. Sinon, Michou a une autre chaîne YouTube qui s'appelle Michou Off. Dans sa chaîne principale, Michou fait des lives, ça veut dire qu'il joue en direct et que les autres joueurs peuvent commenter. Dans sa chaîne secondaire, Michou Off fait des vidéos. Dans ses vidéos, on voit parfois ses potes qui jouent sur Fortnite. Il joue sur ordinateur ou sur PS4. Il a passé les millions d'abonnés il y a un an en plein live Fortnite alors qu'il vivait une défaite au lance-roquette. C'est ridicule de passer ce cas sur YouTube alors que tu es en train de mourir dans le jeu, mais bon, on ne choisit pas. Du coup, Michou a quitté la partie au grand désespoir de ses fans.
Pourquoi le regardes-tu sur YouTube ?
Parce qu'il est rigolo, il fait du gaming. Le gaming, c'est quand tu joues à des jeux vidéo. Et j'aime comment il joue et j'aime les jeux vidéo qu'il présente. Voilà. Vous pouvez aller le voir sur YouTube si vous voulez.
Bah maintenant, moi je vais vous parler d'Internet, mais avant, deux petites blagues de Giovanni.
Quand tu manges un pépito à minuit, comment ça s'appelle ? Ça fait un pépitard. Pourquoi on a besoin d'avoir toujours une bouteille d'eau dans un magasin ? Pour payer en liquide.
Je vais vous parler d'Internet parce que beaucoup de personnes l'utilisent. Internet, pour quoi faire ? Ça sert à faire des recherches, à envoyer des messages, des vidéos, de créer des projets, mais ça a des inconvénients. Tu peux te faire pirater, c'est-à-dire que des personnes peuvent voler tes photos de toi et les envoyer sur YouTube, Twitter, Facebook, ou voler tes codes pour accéder à ta messagerie ou ta banque, ou acheter des trucs à ton nom, etc. Sur Internet, on peut s'informer sur des événements dans le monde, apprendre et découvrir. Mais parfois, il y a des sites qui disent n'importe quoi, des gens qui écrivent des fake news, et du coup, il faut se méfier de ce qu'on lit et de ce qu'on voit. Il faut vérifier qui écrit, qui publie et aller sur des sites de confiance. Maintenant, c'est Mehdi qui va nous mettre une musique.
Le titre de la chanson est « Ramener la coupe à la maison ». Le chanteur est VG Dream, qui a été proposé par Mehdi. C'est une chanson qui fête la victoire des Bleus. Elle va bien avec mon texte.
Casser les manches comme Samuel, Samuel M.T.T. 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 Et s'il y a trop, on peut toujours appeler Benjamin Mendy. Et s'il y a trop, on peut toujours appeler Benjamin Mendy. Ramenez la coupe à la maison. Yeah.
ramener la coupe à la maison.
Maintenant, c'est Youssef qui va nous parler des écoquartiers.
Je vais vous parler des écoquartiers. On a parlé de ça à l'école et moi, je trouve ça intéressant. Les écoquartiers, ce sont des quartiers économiques. Ce n'est pas pareil qu'un quartier normal. Dans un écoquartier, les voitures sont à l'extérieur du quartier. C'est plus naturel, on respire mieux. C'est plus vivable. Tu dois te déplacer à pied, utiliser le vélo ou le transport en commun. Les maisons ou bâtiments sont construits pour éviter de trop chauffer. Les déchets sont recyclés. Il y a des végétaux, des arbres. Il y a moins de pollution. Ça garde une dimension normale. Ce n'est pas géant. Il y a des épiceries et écoles, lycées. On habite mieux, on vit mieux. On n'en trouve pas beaucoup en France, mais il y en a en Allemagne, en Suède, en Angleterre.
Aimerais-tu vivre dans un écoquartier ?
Oui, j'aimerais bien y vivre.
Pourquoi ?
Parce que c'est naturel, et c'est plus vivable et voilà.
Bah maintenant, c'est Giovanni qui va nous parler des dangers des jeux vidéo.
Moi, je vais vous parler des dangers vidéo. Les dangers peuvent être dangereux pour les yeux comme pour le cerveau et aussi peut faire une crise d'épilepsie à cause du stress que provoquent les jeux vidéo de la lumière des écrans. Mais il existe des jeux qui peuvent te rendre intelligent, qui t'aident à réfléchir par des jeux de logique, par exemple, ou qui t'apprennent des choses comme la géographie. Pour les yeux, il y a des lunettes de repos, il faut en mettre pour protéger les yeux. Moi et mon ami, on n'en met pas, donc on peut avoir mal aux yeux. C'est mieux aussi de ne pas jouer le soir avant d'aller se coucher, parce que ça excite et donc on n'arrive plus à dormir. Et puis quand on joue et on ne met pas de lunettes, la lumière bleue des écrans réveille notre cerveau qui pense que c'est le matin, donc il faut se réveiller. Après, on est fatigué à l'école, on ne peut plus travailler ou même jouer en récréation avec les copains.
Et ben maintenant, Giovanni va nous raconter deux nouvelles blagues.
Oui. Donc, quel animal n'est pas raciste? Le panda, car il est noir et blanc et asiatique. Qu'est-ce qui est jaune et qui court?
Un citron précieux.
Bien, Okan.
Maintenant, Youssef a interviewé des personnes qui sont épileptiques.
Est-ce que tu as quelque chose à nous dire sur l'épilepsie ?
Oui.
Alors, vas-y.
Bonjour. À l'école, nous avons parlé de l'épilepsie. L'épilepsie est une maladie grave au niveau du cerveau. Une crise, c'est quand il y a des sortes de coups d'électricité dans le cerveau qui vont super vite.
À ce moment, les personnes qui souffrent de cette maladie tremblent et ne contrôlent plus leurs mouvements. Ils peuvent aussi perdre conscience. Ils ont des médicaments qu'il faut prendre tous les jours. Cette maladie n'est pas contagieuse. Les médecins ne connaissent pas trop les causes de cette maladie, mais on sait que la fatigue, le stress, certains bruits ou l'éclairage peuvent provoquer une crise. Si jamais une personne fait une crise, il y a quelques consignes à respecter. 1. Garder son calme. 2. Enlever la personne des trucs dangereux et l'allonger par terre, puis appeler les secours. Cette maladie ne se guérit pas, mais il y a des médicaments pour ça. Tout le monde peut être épileptique. Parfois, cette maladie disparaît, mais même si cette maladie est très grave, il faut garder son calme, parce que même si on fait une crise d'épilepsie, on est soigné, voilà.
Bonjour, nous allons vous poser des questions sur l'épilepsie. Pouvez-vous vous présenter ?
Bonjour, je suis Laura, AVS, et je travaille depuis le mois de mars à l'école.
Bonjour, je m'appelle David et je suis AVS depuis le début de l'année à l'école Badinter.
Connaissez-vous l'épilepsie ? Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est ?
Oui, je connais très bien l'épilepsie. C'est une maladie neurologique. Elle se déclenche par des décharges électriques dans le cerveau qui entraînent des chutes et des convulsions.
C'est quoi l'éologique ?
Neurologique.
Neurologique.
Alors, neurologique, c'est... en gros, c'est une maladie qui vient des nerfs.
Ok. Alors, comment avez-vous su que vous étiez épileptique ?
J'ai su que j'ai été épileptique car je tombais très souvent avec des pertes de connaissance. Je me faisais un petit peu mal souvent. Donc les médecins, ils m'ont mis ce qu'on appelle des électrodes sur la tête et ils ont vu que c'était pas très normal. Voilà.
Et c'est exactement pareil pour moi.
Est-ce que c'est embêtant ?
C'est un petit peu embêtant car on peut tomber n'importe où. Et puis on peut se faire des fois très mal, des bosses, des bleus, des fois des fractures.
Et oui, c'est embêtant parce qu'on peut tomber, comme dit Laura, n'importe où, mais à n'importe quel moment. C'est sans prévenir, ça vient tout seul.
Y a-t-il des choses que vous ne pouvez pas faire quand vous êtes épileptique ?
Alors il y a certains sports qui sont déconseillés, mais ça, il faut le voir avec le médecin qui nous suit. Donc le médecin, c'est un neurologue.
Il y a aussi certains métiers qu'on ne peut pas faire, du genre monter sur les échafaudages comme les maçons, parce que s'il nous arrive une crise en hauteur, ça peut faire très mal. Et quand on fait une crise, logiquement, on a aussi, pour conduire les voitures, on a un temps d'attente après une crise. On ne peut pas conduire la voiture dans les semaines qui suivent.
Donc, est-ce qu'il y a-t-il des traitements pour cette maladie ?
Oui, il y a des médicaments, voilà.
Il y a différents traitements. Disons qu'il y a plusieurs types d'épilepsie qui existent. Bon, je ne vais pas les citer parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et chaque personne aura un médicament spécifique au type d'épilepsie qu'il a.
Est-ce que cette maladie est grave ?
Ça peut être grave, cela dépend du type de crise et puis des fois des chutes. Voilà.
Et est-elle contagieuse ?
Ce n'est pas du tout contagieux.
Non, il n'y a rien à craindre là-dessus.
Comment devient-on épileptique ?
Je ne sais pas du tout. Ça peut apparaître comme ça quand on s'y attend pas du tout.
Oui, c'est ça. Même les neurologues ne savent pas exactement d'où ça vient.
Est-ce que cette maladie, on l'a par rapport à son âge ?
Je ne pense pas, car il y a des enfants, des adolescents et des adultes qui ont l'épilepsie.
Disons que l'épilepsie se déclare quand même aux deux tiers avant les 18 ans, avant la majorité.
Voilà, on n'a plus de questions.
On n'a plus de questions à vous poser. Voulez-vous rajouter quelque chose?
Non, ça ira. Merci.
Merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Au revoir.
Merci à vous. Au revoir.
Au revoir.
Ben maintenant, on va écouter la dernière blague de Joanie.
Quel est le compte pour une fée? D'acheter une baguette.
Ah, j'allais pas dire ça, moi.
Cette émission est terminée. J'espère que vous avez bien aimé passer ce moment avec nous. Nous, on a bien aimé. C'était super. Demain, c'est d'autres personnes qui vous feront une émission. N'hésitez pas à venir au festival nous voir ou venir voir des spectacles. Le festival aux actes citoyens, c'est encore demain. Je dis merci à Giovanni.
Merci, au revoir.
Youssef.
De rien, au revoir.
Okan.
De rien, au revoir.
Avant de nous quitter, une dernière musique. Okan, on t'écoute.
La même Maître Gims vient proposer, Johnny nous l'a proposé. Elle parle qu'il ne faut pas juger trop vite les gens.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Mes amis entendaient la vie que j'ai eue, où les gens m'attendaient, je ne suis pas venu. Si je les emmêle, si je dérange, c'est que je suis un pêle-mêle, un mélange. Je suis trop compliqué, je choisirai jamais que les deux côtés. Ne me demandez pas où je veux aller. Même les singes, singes, les sages, et tous ces sages ont fait des cages où tous nous ranger. Hey. Les gens comprennent jamais, jamais l'on ne comprend. Comme l'homme est fait de mille bois, ces boîtes que l'on prend ne sont jamais assez grandes. J'ai suivi mille chemins et serré 10 000 mains. On peut aimer Brel et Meugui, aimer même nos ennemis. Je suis trop compliqué, je ne rentrerai jamais dans vos petites cases. Je vis au jour le jour, alors je zigzague. Toujours avec ces lunettes noires, j'entends les gens se demander quand est-ce que ton